Formation biblique de disciples, cours numéro 20, la vie éternelle. Première partie, infinitude et éternité de Dieu. Dieu est hors de l'espace et du temps, pourtant il est omniprésent et il dirige l'histoire. Hébreux 1, versets 10 à 12. Voici comment la confession de foi nous présente Dieu comme un être infini et éternel. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tout point de vue, très saint, très sage, très libre, absolu. L'infinitude et l'éternité de Dieu vont de pair avec son immuabilité et sa simplicité. Dieu ne change pas avec l'espace et le temps car il est absolu et simple. Lorsque nous songeons à l'infini, nous nous représentons un espace sans fin. Et lorsque nous songeons à l'éternité, nous pensons à une succession de temps qui n'arrête jamais. Nous réfléchissons ainsi car nous sommes des créatures finies et pour nous tout est espace et temps. Qu'est-ce que le temps ? Le temps n'est que la mesure du mouvement. Tout ce qui se meut, tout ce qui change est en quelque sorte emprisonné dans le temps qui est la mesure des séquences qui se succèdent. Le temps est un continuel présent où tout ce qui se déroule arrive de manière séquentielle. Le passé n'est pas une dimension, mais des séquences antérieures de mouvements et de changements, et le futur n'est que la séquence des mouvements à venir. Pour tous les êtres créés, l'éternité sera toujours une suite de présences sans fin, car nous serons à jamais des êtres de finitude. Maintenant, il est important de comprendre que le temps et l'espace n'englobent pas Dieu, mais Dieu les transcende tous les deux. D'ailleurs, la notion de transcendance distingue la pensée chrétienne de la pensée grecque au niveau de l'espace et du temps. Les Grecs concevaient l'infini comme un espace sans limite et l'éternité comme un temps sans fin. La théologie chrétienne classique affirme au contraire que Dieu n'est ni dans l'espace ni dans le temps. Lorsque nous confessons que Dieu est éternel, nous ne voulons pas dire qu'il dure toujours, mais qu'il est atemporel. Et lorsque nous confessons que Dieu est infini, nous ne voulons pas dire qu'il est très grand, mais qu'il est immense, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux choses mesurables, car il est incorporel. C'est ainsi que l'orthodoxie chrétienne a toujours confessé l'infinitude et l'éternité de Dieu. Il existe donc deux ordres, le créé et l'incréé, le temporel et l'éternel, le fini et l'infini. Ces affirmations métaphysiques sont fondées sur la révélation biblique suivante. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Ce texte enseigne non seulement que de notre point de vue, Dieu nous accompagnera à chaque moment pour une durée sans fin, mais aussi qu'il transcende l'espace et le temps. L'ordre créé est sujet au changement et au vieillissement, tandis que Dieu est immuable parce qu'il n'est ni dans l'espace ni dans le temps. Cette transcendance et cette immuabilité divine sont attribuées au Fils un peu plus loin dans l'Épître, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous est difficile de comprendre l'éternité de Dieu parce que nous réfléchissons toujours à partir de notre finitude et nous pensons dans des catégories temporelles. Par exemple, lorsque nous disons « Que faisait Dieu avant de créer ?», nous temporalisons Dieu. Cependant, Dieu n'est pas un créateur temporel mais éternel. Il n'a pas créé dans le temps mais hors du temps. Ex nihilo in nihilo. Il n'y a jamais de avant ni de après pour Dieu. Il est simplement. Jésus nous dit que pour Dieu, tous sont vivants, dans Luc 20, verset 38. Il ne connaît pas l'histoire en séquence temporelle comme nous. Nous ne devons donc pas penser que parce que nous percevons les actes de Dieu dans le temps, qu'il est nécessairement dans le temps lui-même. Pour lui, tout est éternité. La croyance en l'éternité de Dieu est fondée sur le fait qu'il n'a pas de commencement. Ajoutons à l'absence d'un commencement l'absence d'une fin et finalement l'absence d'une succession de moments et nous arrivons à l'éternité divine. Même s'il se manifeste dans le temps, Dieu demeure éternel et hors du temps. L'omniprésence de Dieu peut-être nous aider à comprendre son éternité. Voici ce que nous lisons concernant Dieu et l'espace. Dans 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Dieu n'est pas matériel ni spatial, pourtant il est partout présent dans l'espace. Dans le psaume 139, versets 5 à 12, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu n'est pas contenu par l'espace, mais il n'est pas absent de l'espace. Il transcende l'espace. La même réalité s'applique pour le temps. Dieu est hors du temps, mais il remplit le temps. Nous percevons les actes de Dieu en séquence, mais devant le Seigneur, un jour est comme 1 000 ans, et 1 000 ans sont comme un jour, selon 2 Pierre 3, verset 8. Autrement dit, le temps n'existe pas pour Dieu. Nous connaissons ses actes passés et nous connaîtrons ses actes futurs, mais cette séquence n'existe pas pour Dieu puisqu'il est atemporel, il est éternel. Sentez-vous qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans cette doctrine? C'est parce que votre intelligence est finie et que vous avez affaire avec un Dieu infini qui est conséquemment incompréhensible. Nous pouvons connaître ce Dieu éternel, comprendre que nous n'arrivons pas à saisir son éternité. L'absence d'un commencement, l'absence d'une fin et l'absence d'une succession de moments, mais il demeure incompréhensible pour nous, puisque son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Ce que nous devons faire devant un tel Dieu, c'est nous prosterner et l'adorer. C'est pourquoi je suis hautement perplexe vis-à-vis des théologiens qui rejettent cette doctrine et qui redéfinissent le théisme biblique pour se faire un Dieu qu'ils comprennent. La doctrine de l'infinitude et de l'éternité de Dieu est contestée de nos jours. Certains tentent de réexpliquer la doctrine de Dieu tout en voulant maintenir l'orthodoxie traditionnelle, tandis que d'autres rejettent ouvertement le théisme classique au profit d'un théisme dit ouvert où Dieu serait entièrement temporel et changeant. Dieu se serait lui-même soumis au temps et à son développement séquentiel. Il ignorerait même le futur puisque celui-ci n'existerait pas. Cette façon de réfléchir est une tentative de rendre Dieu compréhensible. Or Job 11, verset 7 nous dit: Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Cependant, en agissant ainsi, on efface la distinction créateur-créature, puisqu'on fait passer Dieu de l'infini au fini, de l'éternel au temporel. Je comprends pourquoi certains se sentent inconfortables devant un Dieu infini et éternel. Ils ont l'impression qu'il est lointain et hors de portée. Dieu est effectivement inaccessible à l'homme, à moins qu'il ne s'abaisse et ne s'approche de lui. Pour ce faire, Dieu n'a pas besoin de changer son essence et de cesser d'être infini et éternel, car il peut se révéler à notre niveau sans qu'il n'y ait en lui de changement. C'est exactement ce que Salomon affirme après avoir déclaré que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. 1 Roi 8, versets 28 et 29. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Puis jusqu'à la fin du chapitre, Salomon exprime sa certitude que le Dieu transcendant est aussi immanent et que s'il est éternel en lui-même, il se révèle néanmoins dans le temps et dans l'histoire. Plutôt que d'opposer transcendance et immanence et de rejeter la première au profit de la seconde, Salomon nous aide à comprendre que la proximité de Dieu est fondée sur sa transcendance et sa séparation ontologique. N'est-ce pas l'ubiquité de Dieu qui nous donne l'assurance que nos prières sont entendues de lui? Si Dieu n'était pas infini et éternel, comment pourrait-il être partout en même temps, recevoir les prières et le culte de tous ses enfants simultanément, en étant bel et bien avec eux individuellement? Sa conscience infinie absorbe totalement notre réalité finie et nous permet de réellement connaître un Dieu présent et d'être réellement connu de lui. Si Dieu se trouvait dans la même finitude que nous, il ne pourrait pas réellement être présent avec nous, puisqu'il serait soumis à la même contingence, à une plus grande échelle de la finitude. Seul un Dieu infini et éternel est présent, car il est omniprésent. De plus, sans l'infinitude et l'éternité de Dieu, il ne peut y avoir de véritable théodicée, c'est-à-dire le fait que Dieu soit à la fois juste, bon et tout-puissant. Si Dieu est temporel, cela signifie qu'il est coupable de laisser aller le mal qu'il pourrait arrêter. Mais s'il est éternel, cela signifie qu'il ne laisse aucunement aller le mal. Nous percevons qu'il laisse aller le mal, mais il s'agit uniquement de notre perspective, voire Hébreux 2, verset 8, car en vérité, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Psaume 7, verset 12. En lui-même, Dieu a déjà tout jugé. Jean 3, versets 18 et 36. Il est le juge éternel, le juge d'éternité. Notre âme peut donc réellement se reposer en l'éternel et notre cœur peut avoir totalement confiance en lui, car les attributs de sa gloire ne connaissent ni changement ni ombre de variation. Seul un Dieu éternel et infini est un Dieu prêt. Jérémie 23, versets 23 et 24. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Deuxième partie, la vie éternelle. La vie éternelle est une promesse essentielle de la nouvelle alliance. L'avenir du croyant repose sur cette espérance de la vie nouvelle, de la vie éternelle. La vie éternelle est une expression qui apparaît 44 fois dans le Nouveau Testament et une fois dans le livre du prophète Daniel. Seulement, c'est un concept qui peut nous paraître difficile à comprendre à cause du caractère éphémère de notre vie sur terre. Petit 1, la brièveté de la vie. Notre nature humaine témoigne de la brièveté de la vie. Tout ce qui nous entoure a une durée de vie plus ou moins longue pour certains, mais tout a une fin. La Bible d'ailleurs se sert de plusieurs images pour parler de la brièveté de la vie et du passage obligé qu'est la mort. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Psaume 103, versets 15 et 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Jacques 4, verset 14. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est là le grand paradoxe qui peut rendre difficile la compréhension du message de la vie éternelle. Tout être vivant est appelé à disparaître un jour. C'est la triste réalité du monde dans lequel nous vivons. Et pourtant, de tout temps, l'homme aspire à une eau de jouvence, symbole de rajeunissement ou d'immortalité. Petit 2, l'éternité. Je vous propose dans un premier temps de découvrir que l'éternité dont parle la Bible n'a rien de commun avec l'immortalité telle que nous la concevons. La vie éternelle n'est pas la simple perspective de continuer à vivre au-delà de la mort. Ce n'est pas non plus un prolongement de notre existence. On pourrait définir l'éternité comme ce qui existe de tout temps, aussi bien autrefois que maintenant, sans être détruit. C'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Il ne faut pas confondre l'éternité avec l'immortalité. Cette définition de l'éternité la rend d'autant plus difficile à croire. Comment parler d'éternité si elle commence à partir d'un moment de notre vie? Nous avons beaucoup de mal à croire à l'éternité. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. L'éternité est un concept qui nous dépasse et que nous avons du mal à assimiler, mais c'est surtout une réalité que nous ne soupçonnons même pas. Petit 3, une personne. 1 Jean 1, verset 1. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Dans ce texte, nous comprenons que la vie éternelle était auprès du Père et qu'elle a été manifestée. Le Seigneur a la vie éternelle en lui-même, d'après 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu nous propose, c'est la vie de son Fils qui était auprès de lui depuis le commencement. Jean personnifie la vie en disant que lui et les apôtres l'ont vue et lui ont rendu témoignage. Rappelez-vous les paroles de l'évangéliste Jean qui déclare dans Jean 1, verset 1, Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. La vie éternelle n'est pas une nouvelle vie, mais c'est la vie qui était auprès du Père dans l'éternité passée. De son vivant, Jésus a manifesté la vie éternelle. Il l'a rendue visible afin que nous en ayons un échantillon. Nous comprenons alors que Dieu ne se contente pas de nous proposer une vie sans fin dans sa présence, mais il nous offre la possibilité de jouir de la vie même de son Fils Jésus. Petit 4, une relation. Jean 17, verset 3. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé. Jésus ici nous révèle que la vie éternelle, c'est de le connaître. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Connaître le Christ va au-delà d'une simple vie d'église ou même d'une connaissance parfaite du texte biblique. La théologie nous apprend beaucoup de choses sur Dieu. C'est une science importante, mais qui se limite à nous donner des informations sur la divinité. Tandis que dans une relation intime et personnelle, dans une proximité, il est possible de vivre une expérience personnelle avec Dieu. La vie éternelle, c'est cette rencontre avec Dieu à travers celui qu'il a envoyé. C'est une communion avec lui. La vie éternelle ne se reçoit pas par la simple adhésion à une confession de foi, mais elle est la rencontre avec une personne, Dieu manifesté en Christ son Fils. Petit 5, les bénéfices. À travers la vie éternelle, Dieu nous communique son ADN, son identité. Il y a des souvenirs dans cette vie, c'est pourquoi Dieu ne s'est pas contenté de prolonger la nôtre. Pour avoir accès à ces souvenirs, il a fallu que Dieu nous attribue sa vie avec tous les événements qui y sont rattachés. Mais la vie éternelle est également présente. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu qui a été déversée en nous par l'intermédiaire de Jésus. La vie éternelle commence maintenant, du moment où nous avons rencontré celui que Dieu a envoyé. Avoir la vie éternelle ne se limite pas à une simple possession. C'est une grâce de Dieu dont les répercussions se feront ressentir jusque dans l'éternité à venir. Quand nous serons avec le Seigneur, rien ne viendra nous perturber. Nous pourrons continuer à vivre pleinement notre vie en Christ. Si cela n'a pas encore été fait, je vous invite à rencontrer Dieu à travers la parole qui nous a laissée la Bible. Acceptez un tête-à-tête avec lui par la foi, et je suis sûre que vous n'aurez aucun regret. Bien au contraire, vous aurez tout le loisir de le remercier dans l'éternité à venir. Petit 6, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie signifie continuer en Christ. C'est l'éternité dans le mouvement de la vie de Dieu. Jean 6, versets 53, 56, 57, selon la traduction William, dit. À moins que vous ne mangiez ma chair et que vous ne buviez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui continue de manger ma chair et de boire mon sang continue de vivre en union avec moi et moi en union avec lui. Celui qui continue de manger de moi vivra par moi. Le chemin. C'est incroyable de voir le nombre de fois où Christ nous présente une porte et un chemin. Je crois que nous savons maintenant tous ce qu'est la porte. Mon fardeau est de voir des disciples continuer sur le chemin. C'est pour cela que, quel que soit l'endroit où je regarde dans les Écritures, je vois le chemin. Quel est le lien avec notre étude? Il est là. La porte de la vie éternelle est de recevoir le Seigneur comme notre nourriture et notre boisson, mais le chemin est de continuer de manger et de boire. Littéralement, faire de Christ notre nourriture et notre breuvage. Les paroles que prononce ici le Seigneur ne sont pas à prendre littéralement, car il dit les paroles que je dis sont esprit et vie et la chair ne sert de rien. Mais considérons un instant la nourriture et la boisson dans leur sens littéral. Le Seigneur nous dit qu'il est vraiment de la nourriture et vraiment de la boisson. Combien de fois mangeons-nous et buvons-nous? À moins que nous ne jeûnions, nous mangeons et buvons chaque jour et même plusieurs fois par jour. C'est pour cela que j'ai choisi la traduction de William pour ce passage, parce qu'il exprime une action continue du verbe grec continuer de manger et continuer de boire. Ce n'est pas une chose qui est faite une fois pour toutes, mais une chose continuelle. C'est le fait de demeurer. C'est une porte et un chemin. Alors où avons-nous échoué? En considérant la vie éternelle comme une porte et non comme un chemin. C'est pour cela que nous sommes faibles. La vie éternelle n'est pas une vie sans fin. Nous l'avons déjà tous. C'est Christ qui vit en moi et moi qui vis en Christ continuellement. Je ne mange pas un plat au début de mon existence qui est supposé me suffire pour le reste de ma vie. Pas du tout. J'ai besoin chaque jour de nourriture et de boisson. Pas seulement pour être en bonne santé, mais simplement pour maintenir ma vie naturelle. Comment peut-il en être autrement pour Christ? La loi de la vie implique que notre vie dépend du fait de recevoir continuellement le Seigneur Jésus, de la même manière que nous l'avons reçu initialement. Selon Colossiens 2, verset 6. Je n'ai pas la vie aujourd'hui parce que j'ai reçu le Seigneur en 1979. Non, j'ai la vie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai reçu le Seigneur, j'ai mangé sa chair et bu son sang. Je n'ai pas de vie en moi-même, je dépends uniquement de sa vie pour être soutenu jour après jour. De même que nous avons besoin de vie chaque jour, nous devons manger sa chair et boire son sang tous les jours. Tout dépend de cela. La loi de la vie signifie qu'il doit grandir et que je dois diminuer. 1 Jean 2, versets 24 et 25, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il y a encore beaucoup de lui à expérimenter et à apprendre. Il y a encore tellement de domaines dans lesquels nous devons grandir. Le chemin est un processus. Nous sommes souvent bien loin d'être arrivés là où nous croyons être. Mais nous n'avons pas parlé ci-dessus de la croissance spirituelle, mais de la satisfaction spirituelle. Si en demeurant continuellement dans le Seigneur, il devient notre nourriture et notre boisson, alors nous grandirons. La croissance n'est pas le résultat d'une longue période de temps, elle résulte naturellement du fait que Christ grandit et que nous diminuons. La loi de vie dit que Christ doit grandir. Cela dit, nous ne pouvons rien faire pour accélérer ce processus. Nous pouvons sûrement l'empêcher ou l'arrêter. D'après Paul, c'est la loi du péché et de la mort qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire et qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Cela ressemble à l'expérience normale de la majorité des croyants et ils appellent cela la vie chrétienne. Mais ça ne l'est pas. Comment se fait-il qu'il ne soit pas très différent des autres personnes dans le monde? Après avoir observé les chrétiens depuis de nombreuses années, je réalise maintenant que la plupart ont une assurance inébranlable et une entière confiance dans la loi du péché et de la mort. Ils pensent qu'il est normal de lutter contre le péché et de travailler pour être comme Christ. Parlez-leur de la sainteté et ils auront plein d'excuses pour ne pouvoir l'atteindre. Ils voient la sainteté comme un but à atteindre plutôt que comme une personne dans laquelle ils doivent demeurer. Le problème de fond est celui-ci. Ils ont plus de foi dans la loi du péché et de la mort qu'ils n'en ont dans la loi de la vie. La sorte de vie que vous menez manifeste la loi dans laquelle vous avez le plus de foi. Celui qui est en moi est plus grand. La question n'est pas qu'est-ce qui va me délivrer, mais qui va me délivrer du cycle d'essayer et d'échouer. Je remercie Dieu, c'est réalisé à travers Jésus-Christ. Romains 7, verset 25. J'ai l'homme, je n'ai rien besoin d'autre. Je demeure simplement en lui, et la loi de la vie prend le relais là où j'ai abandonné. Avant, je ne pouvais pas faire le bien que je voulais, mais ce qui était impossible avant est maintenant facile avec la loi de la vie. Avant, je ne pouvais pas m'empêcher de faire les choses que je détestais, mais la loi de la vie m'empêche de faire ces choses que je hais. La loi de la vie est au-dessus de la loi du péché et de la mort. Si nous avions un tant soit peu autant de foi dans la vie que nous en avons dans la mort, nous apprendrions rapidement à marcher comme nous devrions. Merci Seigneur, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Avec la loi de la vie, je n'ai pas à lutter. Lutter, c'est essayer, et essayer, c'est la loi du péché et de la mort. La loi de la vie, ce n'est pas moi, mais Christ. Je ne peux pas vaincre, mais pourtant celui qui est vainqueur vit en moi. Donc je suis un vainqueur. Ce n'est pas lié à moi, mais tout dépend de lui. Tout est grâce. Que le Seigneur puisse nous emmener dans la plénitude de sa vie. Que nous puissions avoir confiance dans la toute suffisance du Christ qui nous habite et qui mène à bien les bonnes œuvres qu'il a commencées en nous. Lorsque nous demeurons et vivons dans la relation avec l'Esprit de vie de Dieu, nous entrons et avançons dans le mouvement élargi de la vie éternelle sans limite, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, parce que nous sommes toujours en présence de l'Esprit de vie, nous vivons pleinement et toujours dans la liberté de l'Esprit de Dieu. Désormais, nous sommes libres de vivre dans la vie divine et éternelle de Dieu, parce que le fondement de cette vie éternelle de liberté, c'est notre relation d'amour éternel avec notre Dieu Père, Fils, Esprit. L'Esprit qui est vie et liberté ramène notre existence dans une vie libre, donc éternelle et sans limite. Comment pouvons-nous demeurer dans notre liberté? Simplement en nous rappelant que c'est au travers de Christ que nous l'avons acquise et en mettant en pratique ce que j'appellerais la loi de l'Évangile, qui est premièrement d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et deuxièmement d'aimer ton prochain comme toi-même. Si nous respectons ces deux commandements, qui sont en fait le résumé des 10 commandements, nous vivrons l'Évangile et vivrons dans la liberté des enfants de Dieu. Nous n'aurons plus à nous soucier du fait que nous vivons sous la grâce et non sous la loi. Le fait de ne pas pouvoir faire ce qui me plaît n'implique pas forcément un esprit religieux. Ce verset dans 2 Corinthiens 3, verset 17, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, n'a rien à voir avec l'interdiction ou l'autorisation de faire telle ou telle chose. Il nous démontre plutôt que lorsque l'esprit du Seigneur est présent, il n'y a plus de ténèbres, la liberté acquise par Christ se manifeste pleinement. Il n'y a plus rien qui nous empêche de nous tenir en présence de Dieu, d'avoir accès auprès du Père. C'est lui qui nous conduit en tout point. Il nous donne de servir et d'obéir à Dieu sans crainte. Là où est l'esprit, là est la liberté. C'est la vie éternelle. Entrons, demeurons et avançons dans la vie éternelle avec notre Dieu. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Qui est le Dieu éternel? Donnez des versets bibliques. Même si Dieu est illimité, pourquoi a-t-il créé l'humanité avec des limites? Comment s'opère le rétrécissement et la disparition des limites du temps de notre monde? Deuxième question. Qu'est-ce que la loi de l'esprit de vie? Justifiez-vous avec l'épître de Paul aux Romains. Qu'est-ce que la vraie vie? Pour un chrétien, à quel moment commence la vraie vie? À la mort naturelle? Pourquoi? Troisième question, comment la vie et la liberté sont-elles reliées? Expliquez-vous. Quatrième question, comment va se développer la vie dans l'éternité? Qu'est-ce que la vie éternelle? Expliquez-vous avec des versets bibliques.